Bretagne 5. Écoutez la Bretagne. À voix haute, une émission de Meredith Ledez.
Bonjour, ce dimanche dans À voix haute, je vous emmène à la redécouverte d'un magnifique livre de Colette, La naissance du jour, paru chez Flammarion en 1928 et toujours bien sûr disponible en édition de poche. Est-ce ma dernière maison ? Je la mesure, je l'écoute. Pendant que s'écoule la brève nuit intérieure qui succède immédiatement ici à l'heure de midi. Les cigales et le clayonnage neuf qui abrite la terrasse crépitent. Je ne sais quel insecte écrase de petites braises entre ses élytres. L'oiseau rougeâtre dans le pin crie toutes les 10 secondes, et le vent de ponant qui cerne attentif mes murs laisse en repos la mer plate, dense, dure, d'un bleu rigide qui s'attendrira vers la chute du jour. Est-ce ma dernière maison ? Celle qui me verra fidèle, celle que je n'abandonnerai plus. Elle est si ordinaire qu'elle ne peut pas connaître de rivale. J'entends tinter les bouteilles qu'on reporte au puits d'où elles remonteront rafraîchies pour le dîner de ce soir. L'une flanquera, rose de groseille, le melon vert. L'autre, un vin de sable trop chaleureux, couleur d'ambre, convient à la salade. Tomates, piments, oignons noyés d'huile et aux fruits mûrs. Après le dîner, il ne faudra pas oublier d'irriguer les rigoles qui encadrent les melons et d'arroser à la main les balsamines, les phlox, les dahlias et les jeunes mandariniers qui n'ont pas encore de racines assez longues pour boire seuls au profond de la terre, ni la force de verdoyer sans aide sous le feu constant du ciel. Les jeunes mandariniers. Planté pour qui ? Je ne sais. Peut-être pour moi. Les chats attaqueront par bonds verticaux les phalènes dans l'air de 10 heures bleu de volubilis. Le couple de poules japonaises assoupies pépillera comme un nid juché sur le bras d'un fauteuil rustique. Les chiens déjà retirés du monde penseront à l'aube prochaine et j'aurai le choix entre le livre, le lit, le chemin de côte jalonné de crapauds flûteurs. Demain, je surprendrai l'aube rouge sur les tamaris mouillés de rosée saline, sur les faux bambous qui retiennent à la pointe de chaque lance bleue une perle. Le chemin de côte qui remonte de la nuit, de la brume et de la mer, et puis le bain, le travail, le repos. Comme tout pourrait être simple. Aurais-je atteint ici ce que l'on ne recommence point ? Tout est ressemblant aux premières années de ma vie, et je reconnais peu à peu, au rétrécissement du domaine rural, au chat, à la chienne vieillie, à l'émerveillement, à une sérénité dont je sens de loin le souffle, miséricordieuse humidité, promesse de pluie réparatrice suspendue sur ma vie encore orageuse, je reconnais le chemin du retour. Mon stade est accompli, dépassé. Un château éphémère, fondu dans l'éloignement, rend sa place à la maisonnette. Des domaines étalés sur la France se sont peu à peu rétractés, sous un souhait que je n'osais autrefois formuler. Hardiesse singulière, vitalité d'un passé qui inspire jusqu'au génie subalterne du présent, les serviteurs redeviennent humbles et compétents. La femme de chambre bêche avec amour, la cuisinière savonne au lavoir. Ici-bas, quand je ne croyais plus la suivre que de l'autre côté de la vie, ici-bas existe donc une sente potagère où je pourrais remonter mes propres empreintes. À la margelle du puits, un fantôme maternel, en robe de satinette bleue démodée, emplit-il les arrosoirs ? Cette fraîcheur de poudre d'eau, ce doux leurre, cet esprit de province, cette innocence enfin, N'est-ce pas l'appel charmant de la fin de la vie ? Que tout est devenu simple, tout, et jusqu'au second couvert que parfois je dispose sur la table ombragée en face du mien. Un second couvert, cela tient un peu de place maintenant. Une assiette verte, un gros verre ancien, un peu trouble. Si je fais signe qu'on l'enlève à jamais, aucun souffle pernicieux accouru soudain de l'horizon ne lèvera mes cheveux droits et ne fera tourner, cela s'est vu, ma vie dans un autre sens. Ce couvert ôté de ma table, je mangerai pourtant avec appétit. Il n'y a plus de mystère, plus de serpent lové sous la serviette que pince et marque pour la distinguer de la mienne, la lyre de cuivre qui maintenait au-dessus d'un vieil ophicléide du siècle dernier, les pages désertes d'une partition où l'on ne lisait que des temps forts, semés à intervalles égaux comme des larmes. Ce couvert est celui de l'ami qui vient et s'en va. Ce n'est plus celui d'un maître du logis qui foule, aux heures nocturnes, le sonore plancher d'une chambre là-haut. Les jours où l'assiette, le verre, la lyre manquent en face de moi, je suis simplement seule et non délaissée. Rassurée, mes amis me font confiance. Il m'en reste bien peu, 2-3 amis, de ceux qui pensèrent autrefois me voir périr à mon premier naufrage, car de bonne foi je le croyais aussi, et je le leur annonçais. Ceux-là, un à un, la mort pourvoit à leur repos. J'ai des amis plus jeunes, surtout plus jeunes que moi. D'instinct, j'aime acquérir et engranger ce qui promet de durer au-delà de mon terme. À ceci, je n'ai pas causé de si grands tourments, tout au plus des ennuis. Allons bon, il va encore nous l'abîmer. Jusqu'à quand va-t-il tenir tant de place ? Il conjecture le dénouement, ses drames, ses courbes de fièvre. Typhoïde grave ou bénigne éruption ? Le ciel confonde notre ami. Elle s'arrange toujours pour attraper des affections si sérieuses. Mes amis véritables m'ont toujours donné cette preuve suprême d'attachement, une aversion spontanée pour l'homme que j'aimais. Et s'il disparaît encore, celui-là, que de soins pour nous, quel travail pour l'aider, elle, à reprendre son aplomb. Au fond, ils ne se sont jamais tellement plaints, bien au contraire. Ceux qui m'ont vu leur revenir tout échauffé de lutte, léchant mes plaies, comptant mes fautes de tactique, partial que c'en est un plaisir, chargeant de crimes l'ennemi qui me défie, puis le blanchissant sans mesure, puis serrant en secret ses lettres et ses portraits. Il était charmant, j'aurais dû, je n'aurais pas dû. Puis la raison venait et l'apaisement que je n'aime pas et mon silence, trop tard, courtois, trop tard réservé, qui est, je crois bien, le pire moment. Ainsi va la routine de souffrir, comme va l'habitude de la maladresse amoureuse, comme va le devoir d'empoisonner innocemment toute vie à deux. C'en est donc fini de cette vie de militante dont je pensais ne jamais voir la fin ? Il n'y a plus que mes songes pour ressusciter de temps à autre un amour défunt. J'entends l'amour nettoyé de ses plaisirs brefs et localisés. En songe, il arrive qu'un de mes amours recommence avec un bruit indescriptible, une confusion de paroles, de regards traduisibles en 2 ou 3 versions contradictoires de revendications. Sans transition ni coupure, le même rêve s'achève en examen de brevet élémentaire, en fraction décimale, et si l'oreiller au réveil est un peu humide sous ma nuque, c'est à cause du brevet élémentaire. Une seconde de plus et j'échouais à l'oral, balbutie la mémoire encore engluée. Ah, ce regard qu'il avait dans mon songe. Qui ? Le plus grand commun diviseur ? Non, voyons, lui, quand il m'épiait par la fenêtre pour savoir si je l'avais trompé. Mais ce n'était pas lui, c'était. Était-ce ? La lumière monte, élargit de force une baie vert dorée entre les paupières. Était-ce lui ou bien ? Je suis sûre qu'il est au moins 7 heures. S'il est 7 heures, c'est trop tard pour arroser les aubergines, le soleil est dessus. Et pourquoi est-ce qu'avant de m'éveiller, je ne lui ai pas brandi sous le nez cette lettre où il me promettait la paix, l'amitié, une connaissance meilleure et réciproque de nous-mêmes, et de toute la saison, je ne me suis pas levée si tard. Car rêver, puis rentrer dans la réalité, ce n'est que changer la place et la gravité d'un scrupule. Une petite aile de lumière bat entre les deux contrevents et touche, par pulsations inégales, le mur ou la longue, lourde table à écrire, à lire, à jouer, l'interminable table qui revient de la Bretagne, comme j'en reviens. Tantôt l'aile de lumière est rose sur le mur de chaux rose, et tantôt bleu sur le tapis bleu de cotonnade chleu. Vaisselier chargé de livres, fauteuils et commodes ont fait avec moi, par deux ou trois provinces françaises, un grand détour de 15 années. Fins fauteuils à bras fuselés, rustiques comme des paysannes aux attaches délicates, assiettes jaunes chantant comme cloches sous le doigt plié, plats blancs épaissis d'une crème d'émail, nous retrouvons ensemble, étonnés, un pays qui est le nôtre. Qui me montrerait, sur le Mourillon, à 60 kilomètres d'ici, la maison de mon père et de mes grands-parents? D'autres pays m'ont bercé, c'est vrai, certains d'une main dure. Une femme se réclame d'autant de pays natal qu'elle a eu d'amours heureux. Elle naît aussi sous chaque ciel où elle guérit la douleur d'aimer. À ce compte, ce rivage bleu de sel, pavoisé de tomates et de poivrons, est deux fois mien. Quelle richesse et que de temps passé à l'ignorer! L'air est léger, le soleil ride et confie sur le cep la grappe tôt mûrie, l'ail à grand goût. Majestueux dénuement qu'impose parfois au sol la soif, paresse élégante qu'enseigne un peuple sobre, ô mais bien tardif. Ne nous plaignons pas, c'est ma maturité qui vous était due. Ma jeunesse encore anguleuse eût saigné d'accoster le roc feuilleté, pailleté, l'aiguille bifide des pins, l'agave, l'écharde des oursins, l'amerciste poisseux et le figuier dont chaque feuille au revers est une langue de fauve. Quel pays! L'envahisseur le dote de villas et de garages, d'automobiles, de faux masses où l'on danse. Le sauvage du nord morcelle, spécule des bois et ses tempis, certes. Mais combien de ravisseurs se sont au cours des siècles épris d'une telle captive? Venu pour concerter sa ruine, il s'arrête tout à coup, elle écoute respirer, endormie. Puis doucement, il ferme la grille et le palis, deviennent muet, respectueux et soumis Provence à tes vœux. Il rattache ta couronne de vigne, replante le pin, le figuier, sème le melon brodé et ne veulent plus belle que te servir et s'y complaire. Les autres fatalement te délaisseront. Auparavant, ils t'auront déshonoré. Mais tu n'en es pas à une horde près. Ils te laisseront ceux qui sont venus sur la foi d'un casino, d'un hôtel ou d'une carte postale. Ils fuiront brûlés, mordus par ton vent tout blanc de poussière. Garde tes amants buveurs d'eau à la cruche, buveurs du vin sec qui mûrit dans le sable. Garde ceux qui versent l'huile religieusement et qui détournent la tête en passant devant les viandes mortes. Garde ceux qui se lèvent matin et se bercent le soir, déjà couchés, au petit allaitement des bateaux de fête sur le golfe. Garde-moi.
Thank you.
À voix haute, Meredith Ledez.
La mûrissante couleur de la pénombre marque la fin de ma sieste. Infailliblement, la chatte prostrée va s'allonger jusqu'au prodige, extraire d'elle-même une patte de devant dont personne ne connaît la longueur exacte, et dire, d'un bâillement de fleurs, « Il est 4 heures bien passées ». La première voiture automobile n'est pas loin, roulant sur sa petite nue de poussière vers une plage, d'autres la suivront. Quelqu'une s'arrêtera un moment à la grille versant sur l'allée, parmi l'ombre plumeuse des mimosas, des amis sans leurs femmes, des femmes et leurs amants. Je n'en suis pas encore à leur fermer ma grille au nez et à montrer les dents derrière. Mais ma froide et tutoyeuse cordialité, à laquelle ils ne se trompent pas, les contient. Des hommes aiment mon logis privé de maître, son odeur, ses portes sans verrou. Quelques femmes disent d'un air de soudain délire « Ah, quel paradis !» et comptent sourdement tout ce qui manque. Mais celles-ci et ceux-là apprécient ma patience à écouter leurs projets, moi qui n'ai pas de projet. Ils sont fous de ce pays. Ils veulent une petite ferme très simple ou construire un mas sur ce cap à pic sur la mer, hein, quelle vue! Là, je deviens charmante, car j'écoute et je dis « oui, oui », car je ne convoite pas le champ d'à côté, je n'achète pas la vigne du voisin et je ne fais pas ajouter une aile. Un camarade se rencontre toujours pour toiser ma vigne, aller de la maison à la mer sans monter ni descendre une marche, revenir et conclure. En somme, cette propriété telle qu'elle est vous convient parfaitement. Et je dis « oui, oui », comme lorsqu'il m'assure, lui ou un autre, « vous ne changez pas ». Ce qui signifie « nous avons la ferme intention que vous ne changiez plus ». Je veux bien essayer encore. Le vent grandit, puisque la porte qui ouvre sur la vigne, l'enclos ceint de briques ajourées, se débat faiblement sur ses gonds. Il va balayer rapide un quart de l'horizon et s'agripper sur le nord verdâtre, d'une pureté hivernale. Alors le golfe creux ronflera tout entier comme un coquillage. Adieu ma nuit à la belle étoile sur le matelas de raffia. Si je m'étais obstinée à dormir dehors, la puissante bouche qui souffle le froid, le sec, qui éteint toute odeur et anesthésie la terre, l'ennemi du travail, de la volupté et du sommeil, m'eût arraché draps et couvertures qu'il s'est façonné en longs rouleaux. L'étrange tourmenteur, occupé de l'homme comme peut l'être un fauve. Les nerveux en savent plus que moi sur lui. Ma cuisinière provençale, attaquée près du puits, pose ses seaux, se tient la tête et crie « Il me tue !» Les nuits de Mistral, elle gémit sous lui dans sa cabane de la vigne, et peut-être qu'elle le voit. Retirée dans ma chambre, j'attends avec une impatience modérée la retraite du visiteur pour qui nul lui n'est clos, et qui déjà pousse sous ma porte un singulier hommage de pétales flétris, de graines vannées finement, de sable, de papillons molestés. Va, va, j'ai découragé d'autres symboles. Et je n'ai plus 40 ans pour détourner le front devant une rose qui se fane. S'en serait donc fini de cette vie de militante ? 3 moments sont bons pour y songer. La sieste, une petite heure d'après le dîner, quand le craquement du journal arrivé de Paris emplit étrangement la pièce, et puis l'insomnie irrégulière au milieu de la nuit, avant l'aube. Oui, il est bientôt 3 heures. Mais où chercher même pendant ce milieu instable de la nuit qui si vite penche vers le jour, la poche énorme d'amertume que me promettaient mes chagrins et mes bonheurs passés, ma littérature et celle des autres. Humble à l'habitude devant ce que j'ignore, j'ai peur de me tromper, quand il me semble qu'entre l'homme et moi, une longue récréation commence. Homme, mon ami, viens respirer ensemble. J'ai toujours aimé ta compagnie. Tu me regardes à présent d'un œil si doux. Tu regardes émerger d'un confus amas de défroques féminines, alourdies encore comme d'algues naufragées. Si la tête est sauve, le reste se débat, son salut n'est pas sûr. Tu regardes émerger ta sœur, ton compère, une femme qui échappe à l'âge d'être une femme. Et là, à ton image, l'encolure assez épaisse. Une force corporelle d'où la grâce à mesure se retire. Et l'autorité qui te montre que tu ne peux plus la désespérer, sinon purement. Restons ensemble. Tu n'as plus de raison maintenant de me quitter pour toujours. Une des grandes banalités de l'existence, l'amour, se retire de la mienne. L'instinct maternel est une autre grande banalité. Sorti de là, nous nous apercevons que tout le reste est gai, varié, nombreux. Mais on ne sort pas de là quand ni comme on veut. Quelle était judicieuse la remontrance d'un de mes maris. Mais tu ne peux donc pas écrire un livre qui ne soit d'amour, d'adultère, de collage mi-incestueux, de rupture. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose dans la vie? Si le temps ne l'eût pressé de courir, car il était beau et charmant, vers des rendez-vous amoureux, il m'aurait peut-être enseigné ce qui a licence de tenir dans un roman et hors du roman la place de l'amour. Il partait donc, et au long du même papier bleuâtre qui sur la table obscure guide en ce moment ma main comme un phosphore, je consignais incorrigible quelques chapitres dédiés à l'amour, au regret de l'amour, un chapitre tout aveuglé d'amour. Je m'y nommais René Néré, ou bien, prémonitoire, j'agençais une Léa. Voilà que, légalement, littérairement et familièrement, je n'ai plus qu'un nom qui est le mien. Ne fallait-il pour en arriver, pour en revenir là, que 30 ans de ma vie? Je finirai par croire que ce n'était pas payé trop cher. Voyez-vous que le hasard ait fait de moi une de ces femmes cantonnées dans un homme unique, au point qu'elles emportent jusque sous terre, stériles ou non, une ingénuité confite de vieille fille? D'imaginer un pareil sort, mon double charnu tanné de soleil et d'eau, que je vois dans le miroir penché, en tremblerait s'il pouvait trembler encore d'un péril rétrospectif. Contre le fin grillage abaissé devant la porte-fenêtre, un sphinx des lauriers roses donne de la tête, rebondit et rebondit, et le grillage tendu sonne comme une peau de tambour. Il fait frais. La généreuse rosée ruisselle, le mistral a différé son offensive. Les étoiles le palpitent largement, dilatées par l'humidité saline. La plus belle nuit, encore une fois, précède le plus beau jour, et je me réjouis hors du sommeil. Oh, que demain me voit aussi douce! De bonne foi, je ne prétends plus à rien, sinon à ce qui est inaccessible. Quelqu'un m'a-t-il tuée pour que je sois si douce? Non point. Il y a bien longtemps que je n'ai connu le front contre le front, le sein sur le sein et mêlé les jambes, de vrais méchants. L'authentique méchant, le vrai, le pur, l'artiste, il est rare qu'on le rencontre même une fois dans sa vie. Le méchant ordinaire est métissé de braves hommes. La troisième heure du matin, il est vrai, incline vers l'indulgence ceux qui la goûtent au champ et ne donnent rendez-vous sous la fenêtre bleuissante qu'à eux-mêmes. Le vide cristallin du ciel, le sommeil déjà conscient des bêtes, la frigide contraction qui reclôt les calices, autant d'antidotes contre la passion et l'iniquité. Mais je n'ai même pas besoin d'indulgence pour déclarer que personne ne m'a tué dans mon passé. Souffrir, oui, souffrir, j'ai su souffrir. Mais est-ce très grave, souffrir? Je viens à en douter. Souffrir, c'est peut-être un enfantillage, une manière d'occupation sans dignité. J'entends souffrir quand on est femme par un homme, quand on est homme par une femme. C'est extrêmement pénible, je conviens que c'est difficilement supportable. Mais j'ai bien peur que ce genre de douleur-là ne mérite aucune considération. Ce n'est pas plus vénérable que la vieillesse et la maladie, pour lesquelles j'acquiers une grande répulsion. Toutes deux voudront bientôt me serrer de près. D'avance, je me bouche les narines. Les malades d'amour, les trahis, les jaloux doivent sentir la même odeur. J'ai le souvenir très net d'avoir été moins chérie de mes bêtes quand je souffrais d'une trahison amoureuse. Elle flairait sur moi la grande déchéance, la douleur. J'ai vu à une belle chienne de qualité un regard inoubliable, généreuse encore, mais mesurée, ennuyée avec cérémonie, parce qu'elle n'aimait plus autant la signification de tout mon être. Un regard d'homme, le regard d'un certain homme. La sympathie de l'animal pour l'homme malheureux. On n'arrivera donc jamais à faire justice de ce lieu commun d'une bêtise purement humaine. L'animal aime presque autant que nous le bonheur. Une crise de larmes l'inquiète, il imite parfois le sanglot, il réfléchit passagèrement notre tristesse. Mais il fuit le malheur comme il fuit la fièvre, et je le crois capable à la longue de le bannir. Les deux matous qui se battent dehors, comme ils emploient bien la nuit de juillet. Ces chants aériens du chamal, ils ont accompagné tant d'heures nocturnes de mon existence qu'ils sont devenus symboles de vigilance, d'insomnie rituelle. Oui, je sais qu'il est 3 heures, et que je vais me rendormir, et que je regretterai à mon réveil d'avoir gaspillé l'instant où le lait bleu commence à sourdre de la mer, gagne le ciel, s'y répand et s'arrête à une incision rouge au ras de l'horizon. Une grande voix de fauve baryton à long souffle persiste à travers les sons acérés d'un chat ténor habile au trémolo, aux chromatiques aiguës interrompues d'insinuations furieuses, plus nasales à mesure qu'elles se font plus outrageantes. Les deux matous ne se haïssent pas, mais les nuits claires conseillent la bataille et les dialogues déclamatoires. Pourquoi dormir ? Ils choisissent, et de l'été, ne prennent, nuit et jour, que le plus beau. Ils choisissent. Tous les animaux bien traités choisissent ce qu'il y a de mieux, autour d'eux et en nous. Partant, j'ai connu, puis franchi l'époque où leur froideur relative m'instruisit de ma propre indignité. Je dis bien indignité. N'aurais-je pas dû quitter ce bas royaume ? Et quel goût déplorable dans ces pleurs mal essuyés, ces regards éloquents, ces stations debout sous un rideau à demi levé, ce mélodrame. Et que voulez-vous que pensât d'une telle femme une bête, une chienne, par exemple, qui était elle-même toute feu caché et secret, une chienne qui n'avait jamais gémi sous le fouet ni pleuré en public. Elle me méprisait, cela va sans dire. Et mon mal, que je ne cachais pas aux yeux de mes pareils, j'en rougissais devant elle. Il est vrai que nous aimions, elle et moi, le même homme. Mais c'est quand même dans ses yeux, à elle, que je lisais une pensée. Je la relis dans une de mes dernières lettres de ma mère. L'amour, ce n'est pas un sentiment honorable. Un de mes maris me conseillait. Tu devrais bien, vers 50 ans, écrire une sorte de manuel qui apprendrait aux femmes à vivre en paix avec l'homme qu'elles aiment, un code de la vie à deux. Je suis peut-être en train de l'écrire. Homme, mes anciennes amours, comme on gagne, comme on apprend à tes côtés. Il n'est si bonne compagnie qui ne se quitte, mais je m'engage ici à prendre courtoisement mon congé. Non, tu ne m'as pas tué. Peut-être ne m'as-tu jamais voulu de mal. Adieu, cher homme. Et bienvenue aussi à toi. Une lueur bleue s'avance sur mon lit de bien portante, plus commodément arrangé pour écrire qu'un lit de malade, jusqu'au papier bleu, jusqu'à la main, jusqu'au bras couleur de bronze. L'odeur de la mer m'avertit que nous touchons à l'heure où l'air est plus froid que l'eau. Me lèverai-je ? Dormir est doux. C'était La naissance du jour, de Colette, parue aux éditions Flammarion en 1928, est toujours bien sûr disponible en poche. Cette émission était réalisée comme toujours par Frédéric Guillon. Vous avez pu entendre en interlude musical les Noctuelles de Maurice Ravel, interprétées par Bertrand Chamaillou. Quant à moi, je vous souhaite un bon dimanche soir et je vous dis à samedi prochain pour de nouvelles lectures à voix haute.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.